Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fous !
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'es fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
on ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un coup là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Avec tout ça dit, il
bonjour les entonnoirs.
Bonjour.
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 Bienvenue à l'émission 753, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait, oui, oui.
Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Margot.
Bonjour.
Christopher.
Bonjour tout le monde.
Olivier.
Bonjour, bonjour.
Houssine.
Bonjour.
Et un invité, Yves Duteil, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue dans notre émission Les Entonnoirs. Alors, on a préparé cette émission avec pas mal de questions à vous poser.
Oui.
Enfin, surtout les animateurs, hein, plus que moi d'ailleurs, j'avoue. Mais on a une tradition dans cette émission, on commence toujours par un morceau de musique. Alors avant qu'on vous pose quelques questions, Olivier.
Ma question, moi, c'est parmi votre discographie, quelle est votre chanson préférée ?
Ben, j'en ai beaucoup des chansons préférées, donc c'est vraiment une question embarrassante. Depuis que je sais que vous allez me poser cette question, je réfléchis et je suis bien embêté. Parce que je vous dirai La langue de chez nous, parce que c'est une chanson que j'adore et qui m'a beaucoup emporté, je dirais, dans le monde francophone, entraîné, emporté, emmené. Il y a Prendre un enfant, évidemment, j'adore parce que c'est une chanson très spontanée. Mais il y a plein de chansons qui me viennent à l'esprit. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est Pour que tu ne meures pas, parce qu'elle est très émouvante et qu'elle a été écrite à un moment où on traversait avec mon épouse une grosse épreuve et que ça m'est venu comme ça tout d'un coup de lui dire tout ce que j'imaginais pour qu'elle ne meure pas. Et donc c'est une chanson à laquelle je tiens beaucoup, qui m'émeut énormément quand je chante en concert. Alors on va peut-être garder celle-là. Mais c'est pas gay, hein, comme début. J'aurais pu choisir Le petit pont de bois ou La tarentelle.
C'est pas grave. L'émission voilà. Dure une heure, on aura le temps. De... voilà.
Pour que tu ne meures pas, j'ai prié jour et nuit un Dieu que j'ignorais pour qu'il te garde en vie. Je priais à genoux. Pour qu'il te laisse à nous. Je faisais les prières que je me récitais lorsque j'étais enfant. Je disais notre Père, je vous salue Marie. Et je cherchais en vain dans le ciel ici-bas des instants de répit que je trouvais enfin dans le creux de tes bras. Pour que tu restes en vie, j'aurais prié Bouddha. Pour que tu ne meures pas, je plongeais mon regard au plus profond du tien pour soigner ton chagrin. J'aurais voulu qu'on m'aide à trouver le remède. J'aurais changé l'histoire pour effacer les jours qui déposaient du noir autour de ton amour. Le coup, j'aurais voulu pouvoir voler à ton secours. Pour que tu ne meures pas, j'ai chanté certains soirs tous les chants de l'espoir que j'écrivais pour toi. Et je montais si haut vers l'infiniment beau pour pouvoir apporter un peu d'éternité à t'offrir en cadeau. Quand je t'ouvrais mon cœur en caressant ta peau, comme on touche un trésor. Tu te battais si bien, on se sentait si fort. J'aurais cherché plus loin pour que tu vives encore. Je ne saurais jamais ce qui de tout cela nous a gardé ensemble. Du courage de vivre ou du bonheur qui tremble. Mais je bénis le ciel de t'avoir épargné. Lorsque la nuit tombait, je t'entends respirer. Et je connais le prix de chaque instant de peine que nous offre aujourd'hui. Et l'amour qu'il fallait pour que tu restes ici. Pour que tu ne meures pas, j'aurais donné ma vie.
Vous écoutez Les Entonnoirs, émission 753, avec Yves Dutheil parmi nous. On commence l'interview avec une première question de Margot.
Vous avez sorti un coffret, au fait, avec combien de CD dedans ?
Avec 16 CD.
16 CD.
Qui est le rassemblement, la réunion de tous les enregistrements qu'on a pu retrouver. Alors, il y a les enregistrements originaux, c'est-à-dire les albums audio originaux. Mais dans après chaque album audio, il y a des bonus de la même époque. Par exemple, qui n'ont jamais été repris en CD. Par exemple, ou dans un album, il y a la chanson des Jeux Olympiques en 92, qui s'appelait La Fleur de l'Impossible, qui n'est jamais sortie sur un album. Elle se retrouve en bonus à l'année 92, donc avec l'album Ligne de Vie, par exemple.
C'était Albertville, 92, c'est ça?
C'était Albertville, okay. C'est ça.
Et c'est vous qui avez écrit une chanson pour...
J'ai écrit La Fleur de l'Impossible, qui est la chanson officielle des Jeux Olympiques de 92, qui a eu le mérite immense de n'être jamais jouée, ni à la cérémonie d'ouverture, ni à la cérémonie de clôture. Et comme j'étais en procès avec ma maison de disques à ce moment-là et qu'on avait vraiment bien des problèmes, aucune maison de disques ne voulait la sortir et on a fini par trouver une toute petite maison de disques qui a accepté de la sortir et on a vendu 10 exemplaires. Ce qui est un record olympique.
Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Ah oui. Sur le CD13, en fait, vous avez choisi des duos.
Oui.
Et comment vous avez fait pour choisir ces duos?
On n'a pas choisi, on les a tous mis.
D'accord.
Tous les duos que j'ai enregistrés dans ma vie sont là. Et il y a vraiment le choix des interprètes. J'ai chanté avec Véronique Sanson, avec Jeanne Moreau, avec Didier Bridgewater, avec Véronique Rivière, et bien d'autres encore.
Rose Laurence,
qu'on adore, qui était
une
de nos adorations dans ce métier, qui est disparue aujourd'hui, mais qui reste dans nos cœurs complètement. Et pour qui j'avais écrit une chanson... À sa demande d'ailleurs, son mari avait écrit la musique et je m'étais engagé à faire les paroles, mais ce que peu de gens savent, c'est que Rose m'avait dit « je voudrais que tu m'écrives une chanson d'amour à tomber par terre ».
Oh.
Et donc j'ai écrit « Ta vie sur moi ».
Ouais, ouais. Et en plus, vous avez sorti le livre avec toutes les paroles en plus.
Alors il y a le livre aussi, c'est ça, ouais. Ça c'est le coffret. Mmh. Et le livre, ce sont tous les textes de mes chansons, sans la musique évidemment, là on est dans un livre graphique, mais avec des commentaires. C'est-à-dire que, en fait, on avait commencé, j'avais fait un premier livre qui s'appelait Les mots qu'on n'a pas dit, où j'avais mis des commentaires, quelques lignes comme ça, sur toutes les chansons, écrites à la main... mais c'était un livre qui datait de 1987, donc il y avait tous jusqu'à 1987, mais on est en 2023.
Oui.
Alors en fait, on a commencé par remettre les commentaires qu'on avait mis, mais on s'est pris au piège parce qu'on s'est dit, oui, mais comment on s'arrête? On va pas s'arrêter à 1987, donc on est obligé de refaire maintenant des commentaires sur chaque chanson, sachant que maintenant, il y en a plus de 200.
Pas de tout repos.
Et donc, les commentaires sur chaque chanson, en plus, pour resituer les albums, un commentaire sur chaque album, et un commentaire sur chaque époque. Voilà, à cette époque-là, il se passait telle chose, mais moi, je vivais comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il y a aussi les commentaires de Bruno Tumers, qui nous a énormément aidés pour la réalisation de ces deux éléments, coffret et livre, qui est un journaliste belge que j'ai rencontré quand il était en train de faire ses études d'audiovisuel. Et qui avait fait sa thèse sur l'évolution de mes chansons entre Le Petit Pont de Bois et Dreyfus. Donc, il connaît mon répertoire presque mieux que moi. Et donc, il a fait une analyse de l'évolution de mon écriture sur 40 pages au début du livre. Et puis au début du tout début du livre, il y a une très belle préface de Didier Van Kovelaar.
Alors j'allais y venir justement en parlant d'écriture, belle préface Didier Van Kovelaar, c'est un ami à vous ?
Ben ça l'est devenu.
OK.
Oui, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que je passais dans une émission de Canal+ et puis ils avaient coutume de d'annoncer la veille l'émission du lendemain et donc ils annoncent et demain nous recevons Yves Dutheil et l'invité du jour, c'était Didier Van Kovelaar, qui à ce moment-là dit vous allez recevoir Yves Dutheil, mais vous savez qu'Yves Dutheil est l'auteur de la chanson des écrivains. La chanson qui raconte le mieux la vie du jeune homme qui écrivait penché sur l'écritoire, éclairé de la rue par une aurore avare, puis ensuite le bonhomme écrivait penché sur l'écritoire, puis ensuite le vieil homme écoutait tombé sur l'écritoire. Et c'est la vie et les mots s'envolaient comme font les flamands sans qu'ils sachent ni pour qui, ni pour quand. Et il dit tout ça. Et moi, j'écoute et je vois cette séquence que l'émission me diffuse et je suis sidéré. J'ignorais complètement que Didier Van Kovelaar connaissait mes chansons et qu'il les aimait à ce point. Donc j'ai demandé le numéro de téléphone de Didier Van Kovelaar à la production de l'émission pour me dire, écoutez, il faut quand même que je le remercie. Il a été tellement... Ah oui. Il m'a sidéré complètement. Et donc, on s'est rencontrés, on a fraternisé. Et à cette époque, le coffret s'appelait pas encore « Chemin d'écriture ». Le titre, c'était « L'écritoire ». Donc on s'est dit, mais le livre et le coffret, on s'est dit, mais il faut que Didier Van Kovelaar fasse la préface. Ouais. Et il l'a faite. Et entre-temps, l'ensemble a changé de titre, c'est devenu « Chemin d'écriture », mais on a gardé la très belle préface de Didier Van Kovelaar.
Les Belges flamands sont considérés comme très très courageux.
Oui, alors justement, c'est en vous écoutant, je crois que c'est sur une des dernières rimes, vous dites comme s'envolent les flamands. Alors chez nous, les flamands, c'est les flamands de Belgique. Hein.
C'est pas les flamands roses. Oui, c'est pour ça, moi j'y pense à chaque fois que je la chante, évidemment.
C'est pas les mêmes.
Je me dis, je vais essayer de pas me tromper, mais là c'est les flamands roses.
Voilà.
Je suis complètement... Là je perds mes moyens.
Mais c'est
là.
Parce que tu vas faire beaucoup de vélo en Flandre, c'est pour ça, je suis sûr.
Parce qu'en fait, quand on écrit une chanson, on fait des analogies d'un couplet à l'autre, et la chanson commence par dire que les mots se posaient comme font les flamands dans sa tête et sur le papier blanc. Donc on imagine ces flamands, les oiseaux,
oui.
Les échassiers, très beaux, très, très gracieux, se poser comme ça, comme des mots sur la feuille de papier, et à la fin de la chanson, bah, les mots s'envolent. Comme font les flamands, mais sans qu'on sache ni pour qui, ni pour quand.
Vous adorez la nature.
Ouais, j'adore la nature.
Adorez, ça se ressent.
Bah, c'est-à-dire qu'on en fait un peu partie quand même.
Oui.
On a intérêt à ne pas l'oublier.
Oui.
Parce que si on oublie la nature, elle, ne nous oubliera pas. Et on le voit en ce moment avec tous ces séismes, ces tremblements de terre, ces incendies, ces ouragans, ces bouleversements climatiques... qui avait été annoncé pourtant. Et on n'en a pas tenu compte et on voit le résultat aujourd'hui.
Ben, moi, j'ai une petite anecdote. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai passé mon BAFA d'animatrice. Et donc, j'ai passé la théorie. Et à cette époque, donc, j'avais un copain qui avait une guitare. Et donc, moi, je chantais la chanson « Prendre un enfant par la main ». Et c'est grâce à cette chanson que j'ai mon BAFA, au fait.
J'en suis très heureux.
Grâce à votre chanson. On l'a appris pendant une semaine. Donc, avec mon ami, avec sa guitare et tout, on l'a appris. Moi, je l'ai chanté. Je l'ai chanté devant plein de personnes. Moi qui étais hyper timide. Mais une fois qu'on s'approprie cette chanson, en fait, c'était super. Et j'ai eu mon BAFA grâce à votre chanson.
Bah, j'en suis très heureux. Voilà. Alors vraiment très très fier pour vous et très heureux.
Et ça date de loin, j'avais 18 ans et j'en ai 55 aujourd'hui.
Et votre ami qui vous a accompagné à la guitare, il a aussi du mérite parce que je vous dis que la partition de guitare, elle n'est pas simple.
Non, elle n'est pas simple, mais il a mis une semaine pour bien la...
Ça ne m'étonne pas, moi j'ai mis, je ne sais pas, 10 mois.
Ah ouais, ben voilà.
Alors Margot, on sait que quand tu étais jeune, tu écoutais Yves Dutheil. Oui. Mais par contre, nous, on aimerait bien savoir ce que vous écoutez Yves Dutheil comme musique chez vous, par exemple.
Alors, j'écoute beaucoup de bossa. Okay. J'écoute Bach. J'écoute. J'ai commencé, moi, avec les Blood, Sweat and Tears, okay. Chicago Transit. Et puis, j'ai découvert James Taylor. Et alors, vous tombez bien parce que dans le coffret, en fait, il y a un truc complètement inédit. Il y a une version française que j'ai écrite de You've Got a Friend de James Taylor et Carole King, chantée avec Audenville. Et j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment une merveille, parce qu'à un moment incroyable qu'on a eu ensemble, c'était pour une radio, et puis on avait un peu travaillé la chanson, mais la prise qu'on a faite pour cette émission, on l'a mise dans le coffret. Et ça s'appelle Quelqu'un qui t'aime. C'est vraiment la traduction presque littérale de la chanson en anglais, mais très poétique, pas vraiment une adaptation, quoi. Mmh. Et donc il y a ce que j'écoute moi, c'est beaucoup des chansons de Nougaro. J'écoute Souchon, mon chouchou c'est Woolsey. Beaucoup d'affection et de tendresse pour Véronique Sanson, avec qui on a fait un duo aussi, qui est dans le coffret sur une de mes chansons et sur une des siennes. Moi j'ai chanté Mon voisin. Ils sont partis, le piano a cessé de jouer. Je ne savais pas du tout que c'était une chanson de Véronique Sanson et sa sœur Violaine. Moi je connaissais cette chanson par Isabelle de Funès, jusqu'au jour où j'ai rencontré le producteur de Véro, qui me dit, mais non, ça c'est une chanson de Véro. Il me dit, tu peux pas venir la chanter au Francofolie de La Rochelle pour la fête à Véro? Ben, j'ai dit oui, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai chanté Mon voisin à Véronique Sanson. Voilà. Donc, quand on me demande moi ce que j'écoute, j'écoute Véronique Sanson, Julien Clerc, Alain Souchon. Mais on voit qui j'écoute quand on sait qui je chante. Parce que dans le coffret, il y a 40 versions des chansons des autres, dont Cécile, ma fille, J'ai la mémoire qui flanche, etc.
Je me souviens plus très bien.
Voilà, et voilà, c'est tout ce que j'aime, finalement. C'est un peu un résumé dans les versions des reprises des chansons des autres que j'aime.
Donc c'est comme ça, parce que moi j'avais... Ma question c'était quelles sont vos inspirations pour écrire vos chansons. Et est-ce que vous avez besoin de la nuit, du calme de la nuit ou...
Alors très longtemps j'ai écrit la nuit, oui. Mais je faisais des lignes de Z avec mon ordinateur ou des grands traits avec mon stylo quand je m'endormais. Et puis un jour j'ai visité une exposition Brassens qui avait été organisée par Clémentine de Roudil, qui est la petite fille de Doineau, le photographe. Magnifique exposition dans laquelle ils ont reconstitué le bureau de Brassens, et donc avec quelques explications en kakémono comme ça. Et sur le kakémono, ils écrivaient que Brassens en fait travaillait beaucoup le matin, très tôt, genre 5-6 heures du matin, et qu'il retravaillait ses chansons énormément comme ça le matin. Et je me suis dit, je vais essayer. Et depuis, je fais ça. Je travaille le matin très tôt, parce que j'ai l'esprit plus clair, j'ai pas du tout sommeil. Mais il y a ce silence dont vous parliez, oui, qui pour moi est l'écrin de la pensée, l'écrin de l'inspiration. Quand on arrive à faire le silence autour de soi et à l'intérieur de soi, il y a des choses incroyables qui remontent, des murmures qu'on n'entend jamais, parce que la vie aujourd'hui, elle est peuplée de bruit. On met de la musique dans les ascenseurs, dans les boutiques, dans les aéroports, dans les gares. On met du bruit partout parce qu'on a peur du silence. Et pour moi, le silence, c'est le début de l'inspiration. Et c'est pour ça que le matin, c'est formidable, parce que personne n'appelle au téléphone à 5 heures du matin. La maison est calme, vous avez largement 2 heures devant vous où il ne va rien se passer. Et pour moi, c'est le moment où j'ai l'esprit le plus éveillé.
Merci.
J'avais une question, c'était pour savoir. Comment vous avez découvert le piano et la guitare ?
Ma maman jouait merveilleusement du piano, et donc il y a une chanson qui s'appelle Mon piano à 100 ans qui raconte ça. Dans le salon désert, au fond du canapé, je regardais ma mère s'installer au clavier, quand ses doigts voltigeaient comme un oiseau sans cage, je sentais qu'elle m'offrait son amour en partage. Et donc, pour moi, c'est ma maman, le piano. Elle m'a donné envie de jouer. Mais... Peut-être vous surprendre, mais je ne lis pas le solfège. Je ne lis pas la musique. Je suis un musicien d'instinct, d'oreille, et je reproduis ce que j'entends. Et donc j'ai fait du piano, et puis au lycée, vous allez me poser la question pour la guitare, je suppose. Au lycée, j'ai fait partie de l'orchestre du lycée, et je jouais de l'orgue. Mais parce que je jouais du piano. Mais mes copains de l'orchestre du lycée, eux, ils jouaient de la guitare. Patrice Marquis, qui était le guitariste de l'orchestre, lui, il jouait Django Reinhardt, mais plus vite que Django Reinhardt. Et donc, moi, je piquais sa guitare à la fin des répétitions, puis je jouais des trucs, moi, pour essayer de m'apprivoiser à la guitare. Et puis, j'ai demandé, j'avais 15 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir une guitare pour Noël. Et c'est comme ça que j'ai commencé la guitare. Et c'est dès que j'ai commencé à avoir une guitare entre les mains, j'ai commencé à écrire des chansons.
J'ai précisé que je suis la petite cousine de Diego Reinhardt.
C'est vrai?
Oui.
Oula, alors là, alors lui, il était très fort parce qu'il jouait mieux que les autres, il avait deux doigts en moins, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et donc, il était incroyable, quoi. Il y
a une vélocité. C'est mon grand-père qui m'en a parlé.
Et les phrases musicales de Django Reinhardt, on ne les comprenait pas jusqu'à la fin. Et tout d'un coup, on réalisait, c'est un peu comme McCartney. Pour comprendre les phrases musicales, il faut entendre jusqu'au bout. Et là, on est sidéré parce que c'est du génie, quoi.
Oui, il y avait un génie.
Oui. Mais...
Aussi, il me semble que tu avais une question.
Oui. Alors moi, c'est pourquoi avoir sorti un coffret reprenant vos chansons et un livre en simultané?
On a fait, en 2021, on avait déjà fait ça avec un livre et un coffret qui s'appelait « Chemin de liberté ». En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait écrit, j'avais écrit « Chemin de liberté » en racontant un peu notre vie, à Noël et moi, les engagements qu'on avait pris... c'est ça, voilà, vous l'avez entre les mains, chemin de liberté, chemin au pluriel de liberté. Et c'est comme vraiment, là pour le coup, une audiobiographie comme départ, en fait, le livre que j'avais écrit qui s'appelait Chemin de liberté. Et puis, quand vous faites un livre, on vous donne la dernière épreuve avant l'impression. L'imprimeur, l'éditeur, avant d'éditer le livre, avant de l'envoyer à l'imprimeur, vous avez une version à corriger en dernier, après laquelle, bon bah voilà, ça part à l'impression et c'est comme ça que ça sortira. Donc on a relu le livre avec Noël et on s'est rendu compte que dans le livre Chemin de liberté, il y avait quasiment une chanson à chaque page, mais on n'en parlait pas. On racontait un épisode de notre vie, on racontait la Tibétaine, l'engagement pour la liberté du peuple tibétain, c'est la chanson la Tibétaine. L'école. Madame Sevilla, ma maîtresse de CP. La mairie, 25 ans de mairie, avec les gens de mon village. Le Québec, la langue de chez nous, dédié à Félix Leclerc. On s'est dit, mais ce qui serait formidable, ce serait d'avoir une sorte de bande originale du livre en musique. C'est-à-dire que toutes les chansons, page par page, on pourrait les enregistrer, on pourrait les mettre bout à bout sur un coffret et avoir le coffret qui serait la version audio du livre, en fait, la version... musicale du livre, avec l'apparition des chansons dans l'ordre auquel elles apparaissent dans le livre. Et c'est ce qu'on a fait. Ça s'est passé très très vite. Et on a décidé, en même temps que le livre, de sortir le coffret Chemin de liberté, avec 4 CD et 75 chansons. Ben, c'est un peu ce qu'on a fait là pour le coffret et le livre, sauf que l'histoire n'est pas tout à fait la même. Le début, c'est notre éditeur, le même d'ailleurs, Jean-Daniel Belfond me dit, moi j'aimerais bien faire une biographie, une vraie biographie de toi. Puis j'ai déjà écrit Chemin de liberté. Il me dit, moi ce qu'on pourrait faire, c'est un recueil de tous tes textes de chansons. Ok, on est parti là-dessus, on a rassemblé tous les textes, commenté, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était à mes 50 ans de chansons. On s'est dit, ce qui serait joli, ce serait de faire un coffret. Puisque le livre serait une intégrale des textes, faisons une intégrale des disques. Et le coffret est devenu l'intégrale des disques, mais pareil, chronologiquement, c'est-à-dire l'ordre des chansons de tous les albums, dans l'ordre des albums, dans l'ordre où elles étaient sur les albums, et on a fait ça pour le coffret. C'est-à-dire que vous avez les 10 premiers CD qui correspondent aux 15 albums studio avec des bonus. Puis on a ajouté des choses en plus, des choses inédites pour le coffret. C'est comme ça que ce projet est né, et les deux portent le même titre. Et on s'est dit, c'est formidable de pouvoir montrer comment évolue une chanson. Parce qu'une chanson n'est pas telle que vous l'entendez depuis le départ. On la travaille, on essaye des façons de la chanter différentes. Moi j'ai une version de Virage qui est en bossa nova. Elle est dans le coffret. Il y a une version piano-voix de À l'abri du meilleur du dernier album, alors que la chanson est très très orchestrée sur le disque. Là, on a fait une version piano-voix. Et pareil pour Dreyfus, pareil pour À l'abri du meilleur, pareil pour d'autres chansons. Prendre un enfant aussi, qui est une autre version. Mais les deux versions sont dans le coffret. La version d'origine de l'album, puis la version qu'on a enregistrée en 2023 ou en 2021. Et ce qui montre que, en fait, écrire des chansons, c'est un chemin. C'est pas juste on écrit la chanson, puis on l'enregistre. On essaye des choses. on tente guitare-voix, piano-voix. Est-ce que ce serait mieux au piano ou à la guitare? Est-ce que c'est mieux avec une orchestration fournie ou très dépouillée au contraire? Et voilà pourquoi les deux, le coffret et le livre, sont en parallèle, mais sont très différents l'un de l'autre. Sont très complémentaires.
Écoutez-vous aujourd'hui la radio?
Ben, en fait, oui. Alors, j'écoute beaucoup la radio des informations. Alors, maintenant, il y a des télévisions qui diffusent les infos en continu. Mais il y a aussi des radios, en France Info, ou des radios comme ça, qui nous tiennent au courant de ce qui se passe en temps réel. Mais parfois, je fais un peu de diversion. Et là, cet été, c'est drôle parce que j'étais en train de programmer les stations de radio sur la voiture. Et tout d'un coup, je me retrouve, parce que le scanner, quand on scanne, on tombe sur des stations, c'est parce que c'est, paf, on écoute et j'entends une bossa. Mais une bossa que je ne connaissais pas. Mmh. Par Astrud Gilberto, que par contre je connais très bien. Mais cette chanson-là, je ne la connaissais pas. Donc je reste sur cette radio, c'était France Musique. Mmh. Et sur France Musique, j'entends une émission qui s'appelle Retour de plage. Et là, j'entends des dizaines de chansons d'Astrud Gilberto que je ne connaissais pas. Sur une radio comme ça, qui diffuse des albums des années 70, des années 80, des albums dont j'ignorais totalement l'existence. Alors oui, j'écoute comme ça des radios en piquant un peu au hasard. Et j'avoue que je suis très ouvert à ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir justement rester un peu dans l'ambiance de l'écriture d'aujourd'hui, de la création d'aujourd'hui, et ne pas avoir le sentiment d'écrire toujours mes chansons comme hier, comme avant, ou d'être attaché surtout à des choses anciennes. J'essaie de garder une oreille ouverte. Voilà.
Ah oui, c'est super. Donc, qu'est-ce que faire ?
Moi, j'avais une question. Donc, on est à la radio, donc, à l'émission de radio Les Entonnoirs, qui est une émission animée par des infirmiers et des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et je voulais savoir quel était votre regard, justement, sur la santé mentale.
Je pense qu'on est tous des handicapés mentaux. Tous. On le cache bien. Mais on a tous des faiblesses, on a tous des fragilités. Émotionnellement, on est tous différents. On ne ressent pas la même chose en vivant les mêmes événements. Et j'ai vraiment une grande ouverture par rapport à ça, parce que, d'abord, je vais tout vous dire, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Good Doctor, que vous connaissez certainement. Et ce regard sur l'autisme me plaît beaucoup, parce que je trouve que c'est un handicap, mais c'est parfois un atout. Et le regard des gens qui ont une autre sensibilité au plan mental peut nous être très utile, parce qu'ils voient, ils ressentent des choses que nous, on n'est pas en mesure de ressentir. C'est comme les gens qui ne voient pas bien, des gens qui ont un problème de malvision. Ils développent d'autres sens que les nôtres, parce qu'ils sont forcés de faire attention à d'autres choses pour pouvoir se mouvoir dans la vie, éviter les obstacles. Je pense que le problème mental, c'est la même chose. C'est qu'on est obligé. D'abord, les gens qui ont un problème mental ont souvent un affectif extrêmement développé. Parce que on a besoin de se rassurer. On a besoin de se conforter. On a besoin de trouver d'autres repères. Et le repère principal, c'est l'amour. On se définit soi-même par l'amour qu'on donne et par l'amour qu'on reçoit. Et donc le handicap mental, il est en cela très particulier et très important. Je pense que on a trop souvent méprisé cette partie du handicap. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup plus de respect pour la différence. Et je pense que si la création, la nature, le monde nous a fait différents, il nous a fait à peu près tous pareils dans notre enveloppe humaine. Mais c'est un peu comme le bureau d'un ordinateur. Vous regardez le bureau de deux personnes, le bureau d'ordinateur de deux personnes, personne ne range son ordinateur de la même manière. Mais personne ne range son esprit de la même manière non plus. Et je pense que l'immense qualité des gens qui ont des difficultés, parce que leur cerveau a reçu une sorte de malformation, ils compensent par énormément d'autres sens. Ils sont infiniment plus sensibles que la plupart des gens. Et c'est justement pour ça qu'il faut les respecter.
Oui, c'est vrai. Tout à fait.
Ossine, tu avais une question ?
Ossine, d'accord. Que pensez-vous des émissions de musique comme The Voice, Star Academy ?
Bah, je les regarde pas beaucoup pour tout vous dire, parce que j'ai l'impression de quelque chose qui relève plus de l'industrie musicale que de la création artistique pure. Parce que d'abord, vous avez très peu de gens qui écrivent leurs propres chansons. On est dans l'interprète, là, dans The Voice ou Star Academy, on était plus à s'attacher à des personnes qui vivent en vase clos, dans une réalité qui n'existe pas dans la vie courante. Et autant j'ai du respect pour le travail qui est effectué par les coachs, pour essayer d'orienter des carrières, des artistes qui ont du talent, parce que en fait ils ne recrutent pas parmi des gens qui n'ont pas de talent, ils recrutent parmi des gens qui en ont. Et après on les oriente d'une certaine manière de chanter pour les conduire vers des influences d'interprètes, c'est-à-dire, oui, aujourd'hui on chante, mais moi j'aimerais un The Voice d'auteur-compositeur, où on retrouverait quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Quand Michel Polnareff est apparu, c'était n'importe quoi. On n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais entendu ça. C'était le copier-coller de rien du tout. Personne n'avait entendu ça avant, et on ne savait pas si ça pouvait marcher. Donc il fallait que quelqu'un s'engage pour produire, puis pour diffuser. On a tendance aujourd'hui à s'attacher plus à ce qui marche déjà pour être sûr de faire de l'audience. Et du coup, on retrouve les défauts de ce qu'on avait à l'époque où il y avait 4 radios et où il fallait faire de l'audience à tout prix. Et donc, c'était le règne absolu d'une dizaine de personnes qui décidaient pour tout le monde. On ne peut pas toujours faire voter les gens pour écarter tel ou tel ou accepter tel ou tel, alors que notre métier est un métier de création pure, où il faut inventer son style, où il faut découvrir quelque chose que personne n'avait fait avant. Donc voilà, je suis un peu en retrait, mais bon, je ne critique pas parce que je pense que bon, c'est une école comme une autre, c'est pas une mauvaise école. Mais j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise par rapport à la sélection dans notre métier. Éjecter des gens, c'est pas forcément une façon de révéler des talents.
Oui, tout à fait, oui. Et donc...
Dernière question, Margot. Hein? Dernière question.
Si on vous propose, comme Star Academy, on vous propose d'être, par exemple, un coach, vous serez d'accord ou pas?
Ce qui me rassure, c'est que ça m'étonnerait qu'on me le propose.
Quelle honnêteté!
Très bien, c'est le moment de vous remercier Yves Dutheil d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci grandement.
Merci
grandement.
À vous, merci à vous tous.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique. Le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
D'écouter une interview de Yves Duteil par les Entonnoirs enregistrée le jeudi 14 septembre dernier. Nous enregistrons la deuxième partie de cette émission le lundi 18 septembre. Alors déjà, est-ce qu'il y a des réactions autour de la table ?
Je trouve que c'est un poète. Même dans sa façon de répondre, il est toujours posé, il est toujours calme.
Sébastien, tu voulais dire quelque chose ?
Alors ce qui est marrant, c'est que je suis arrivé il y a moins de 4 minutes et j'ai entendu que la fin... Mais je crois que c'est toujours la fin la plus intéressante parce que je suis complètement d'accord dans la lignée. Il faut être sur la même longueur d'onde et surtout marcher au diapason. Et là, on a un monsieur devant nous qui a réellement compris le monde artistique. C'est pas en jetant les gens qu'on découvre des talents, que ça soit dans la musique ou dans le monde professionnel en général. Mais ouais, très intéressant.
Aline.
Ouais, moi j'ai bien aimé quand il a parlé justement la question sur les troubles psychiques. Quand il a parlé, qu'il a dit qu'on était tous un peu malade mental et qu'on avait tous un peu cette pathologie, et selon l'affect qu'on y mettait, on était plus ou moins en difficulté face aux réactions, face aux gens. Et je trouvais qu'il avait eu un point de vue assez cohérent avec le mien, et il a été assez très respectueux déjà de la maladie, et il a ouvert quelques portes en disant que on était encore trop mis sur le côté et qu'on n'était pas encore assez assez accepté dans la société actuelle. Voilà.
Ok. Suite de l'émission 753 des Entonnoirs, avec pour cette deuxième partie autour de la table Nicolas. Bonjour.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Dupont. Je m'appelle pas Henri, comme dans le dernier bar.
On a Serge aussi.
Bonjour Serge.
Aline.
Salut tout le monde.
Houssine.
Salut, c'est Houssine.
Azad.
Salut tout le monde.
Malika.
Salut.
Et Léo.
Bonjour à tous.
Et Lydie.
Salut tout le monde.
On va donc terminer cette émission avec de la musique, avec de l'actualité, avec une chronique de Aline, et puis il y aura la météo de Malika. Évidemment, on enchaîne avec l'actu service, jingle.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur,
bonjour.
Alors, au programme de l'actu service aujourd'hui, Azad, tu as des infos pour nous?
Oui. Alors, nouvelle donne pour le processus d'intégration des Balkans occidentaux à l'Union européenne. La guerre en Ukraine et la candidature de Kiev poussent Bruxelles à relancer le processus. Enlisée depuis des années, l'adhésion des Balkans occidentaux, Macédoine du Nord Monténégro, Serbie, Albanie, Bosnie et Kosovo. Au nom d'intérêts géopolitiques, les critères d'État, de droit, pourraient être assouplis.
L'Europe risque de s'agrandir. C'est quoi votre opinion, vous, sur l'adhésion de ces nouveaux pays à l'Europe ?
Ben moi, je pense que pour le Monténégro, la Serbie, la Bosnie, le Kosovo, je pense qu'ils vont entrer dans l'Europe, mais l'Ukraine, je reste sceptique.
Serge, tu as une opinion là-dessus, Aline aussi ?
Non, je voulais savoir la différence entre l'OTAN et l'ONU.
L'OTAN, je crois que ça concerne seulement...
L'armée.
Quelques pays, et l'ONU, ça concerne tous les pays de la planète.
Je sais pas.
Si, l'ONU,
c'est une
ouais.
bonne question, j'en ai aucune.
Ouais, franchement, c'est une bonne question aussi.
Ouais, l'OTAN, en fait, c'est une alliance. C'est une alliance.
C'est une alliance militaire. L'OTAN, c'est une alliance militaire. Que l'ONU, c'est pas une alliance militaire.
Non,
mais.
L'ONU, ils ont des soldats. L'OTAN, c'est militaire. C'était basé en Turquie, je pense.
Bon, on va chercher, parce qu'on n'est pas trop balèze en géopolitique autour de la table, apparemment. Donc voilà. Aline, tu voulais réagir, ouais.
Oui, je voulais réagir en parlant des pays comme le Kosovo, la Bosnie, etc., qui sont des pays qui sont encore sous-développés. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc ça peut leur amener quelque chose d'assez positif que d'intégrer l'Union européenne. Pour l'Ukraine, ça dépend, vu la position qu'elle a en ce moment, c'est délicat de donner son avis, d'être pour ou contre. Il faut voir ce que ça va donner avec la Russie dans les prochains mois pour pouvoir se décider réellement, quoi. Mais je pense que pour les autres pays, ça pourra avoir un bienfait économique et social et tout ce qui en découle.
Alors de là à dire que le Kosovo est un pays sous-développé, je trouve que c'est quand même peut-être un peu... ou la Serbie, c'est pas des pays sous-développés, mais...
Mais moins développés que...
En tout cas, moins européanisés, ouais, probablement.
Ouais, voilà, c'est ça, moins européanisés.
Oussine.
Moi, je voulais savoir que si l'Ukraine gagnait la guerre contre la Russie, est-ce qu'elle serait forcée d'adhérer à la CEE?
Bah, je pense qu'elle ne serait pas forcée, mais en tout cas, vu qu'ils sont volontaires, ils iraient de même.
De même vers la CE.
Ok, info suivante, Azad.
En Afrique de l'Ouest, le trafic de médicaments illicites a explosé. La faiblesse des marchés et des réglementations, insécurité et corruption, un rapport de la CDAO décrypte les routes de la contrebande de médicaments.
CDAO, c'est parti allemand ?
Je sais pas, c'est quoi la CDAO, Azad ?
C'est... je sais pas exactement, ouais.
Ok. C'est une émission précise aujourd'hui. Tu sais, Aline ?
C'était parti de Helmut Kohl.
Pour l'ONU et l'OTAN.
Ah, ok. Alors, l'ONU et l'OTAN ?
Alors, l'ONU, c'est les Nations Unies qui représentent le rêve d'un système de relations entre les États fondé sur la notion de sécurité collective. Et l'OTAN a été créée à 2 années après l'ONU en raison de la guerre froide qui repose sur la notion plus pragmatique de défense collective. Ce n'est pas un rêve de protection et de sécurité collective, mais c'est un rêve de défense collective.
Ok. Azad.
Oui, en fait, je voulais rajouter un truc. C'est que j'ai vu que Poutine, sur Internet, a dit qu'il ne voulait pas faire la guerre à la France directement, mais plutôt... s'en prendre à la France-Afrique pour que la France coule économiquement.
Ah ouais.
C'est ce qu'il voulait, ouais.
Ah ouais, il a dit ça dans une interview.
Dans une interview, ouais, avec des journalistes.
Il n'y arrivera pas parce que j'ai vu une photo de Chirac à l'époque avec tous les présidents de pays noirs africains.
Ouais, mais tu sais, les rapports diplomatiques en Afrique, ils ont beaucoup changé. Et l'influence russe s'est beaucoup implantée, alors que celle des Français n'a plus trop la côte, en fait. Les Français sont en train de se faire dégager des pays africains, le Mali, Soudan, enfin voilà.
Niger.
Ok, info suivante, Azad.
Mécanique des fluides. Un bateau propulsé par un caramel. Des chercheurs étudiant les effets de l'écoulement de l'eau sur les roches solubles, on fait une singulière observation. En accrochant un bloc de caramel sous un flotteur, ils ont constaté que sa dissolution faisait office de propulseur. Une modélisation de ce phénomène pourrait permettre de mieux comprendre le déplacement des icebergs. Source Le Monde.
Des réactions ? Non ?
C'est le moment de prendre des actions chez Carambar.
Exactement. Ok, on passe à la suite. On va écouter de la musique avec Aline. Quel groupe nous as-tu choisi, Aline ?
Alors, j'ai choisi un groupe punk rock américain de Los Angeles qui a été créé en 98 et dont la leaduse, Brody Dale, est la guitariste et chanteuse principale. Donc, c'est The Distillers et c'est Gypsy Rosalie.
When I see you lay down under a pink lacquered skies, baby, give you something that'll shut your eyes to this mess. Whoa, I love you, baby.
Excellent morceau. Merci Aline.
Merci.
De rien.
Bah justement, tu vas garder la parole pour terminer cette émission.
Moi, j'ai qu'une mère. Je ne suis pas si mère, merci.
Aujourd'hui, tu voulais nous faire une chronique sur l'équithérapie. Mais qu'est-ce que l'équithérapie ?
Tout à fait. Donc, l'équithérapie, c'est une activité que j'ai la chance de pratiquer grâce à Patrick et Valentin, les infirmiers sport de Bonafé, et grâce au CMP auquel je suis rattachée. Donc c'est, à proprement parler, c'est se soigner par le contact avec l'animal. Donc en fait, on est en contact avec des chevaux pour les gens plus à l'aise et des poneys pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui ont peur. C'est vrai, un cheval, c'est impressionnant, ça fait quand même 500 kilos. ça reste assez massif. Donc il y a plutôt les petits poneys qui vont être, eux, plus acceptables et plus facilement manipulables. Donc on fait ça à Willem, au centre équestre de Willem. C'est Mélanie qui gère ça avec Patrick et Valentin. C'est une fois par semaine. Et moi, ça me permet de vraiment me détendre. Le contact de l'animal qui est très paisible, leurs mouvements sont assez lents, même quand ils mangent, tout est un peu dans la lenteur. On a l'impression d'être sur la Lune et de voir un astronaute marcher au ralenti. Ils sont très, très cool, très décontractés. Du coup, ça nous pose, ça nous apaise. En plus, on fait des balades en forêt, des balades en pleine nature, donc c'est vraiment super agréable, quoi.
Ben, moi, c'est là que j'ai voulu faire l'équitation, mais bon, ma maman ne saurait pas venir me chercher. Et ça va être problème. Donc moi, à la place de faire l'équitation en Willem avec Sébastien, Patrick et Valentin, les infirmiers, je fais l'équitation en croix avec une seule monitrice. Je suis tout seul avec ma monitrice et je fais l'équitation en Willem-Tasso, à la planche épinoise.
Et au niveau du rapport avec les animaux, est-ce que c'est vous aussi qui vous en occupez? Est-ce que c'est vous aussi... vous allez seulement faire des balades ou alors vous apprenez aussi à les soigner?
Non, on fait tout. On va les chercher en pâture, on les ramène dans leur box, on les brosse, on met leur bridon, on met leur sel, on s'occupe d'eux du début à la fin. Après, on monte dessus, on va faire notre balade, on rentre, on les décèle, on s'en réoccupe et on les rebrosse et on va les remettre en pâture et après seulement on rentre. Okay. Donc c'est une activité qui... On est... Sur les une heure d'activité, on est peut-être une demi-heure à cheval et une demi-heure où on prépare et on s'occupe des animaux, quoi. Et les poneys, ils montent pas dessus, par contre.
Serge.
Ouais, ben moi, j'ai un nœud pas d'alerce. Ils ont un... On a un chien. De temps en temps, il vient pour tout le monde. Et après, j'ai entendu dire qu'il y a un nœud pas au milieu, dans le sud de la France, que... Ils avaient mis un cheval. Bon. Surtout une chose, ne jamais monter sur un jeune cheval qui n'a pas été, comment...
Dressé.
Castré.
Dressé ou éduqué.
Débourré.
Débourré, sinon vous allez valser.
Mais ouais, l'équithérapie, moi j'ai déjà vu un reportage là-dessus sur un cheval dans un service d'hôpital, carrément, qui se baladait de chambre en chambre...
Oui, j'ai déjà vu ce reportage aussi. C'est un monsieur qui a dressé son cheval, justement, pour qu'il vienne voir les patients, surtout les enfants. Comme dans certains hôpitaux, il peut y avoir des clowns ou des activités de ce genre-là. Voilà, c'est une activité différente. Mais c'est vrai que ça a été prouvé que, de par les énergies qu'ils dégageaient et de par leur calme et le fait qu'il n'y ait pas de discrimination, enfin, eux ne discriminent personne, qu'on soit... entre guillemets, psychiquement normal ou psychiquement décalé, ben eux, ils font pas la différence. Ils prennent tout le monde comme on arrive, comme on est, et ils nous prennent comme on est. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plus de discrimination. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Si tu t'occupes mal de ton cheval, il va te le faire payer de la même manière pour une personne lambda ou pour quelqu'un qui va être malade, même des maladies. Comme des gens qui ont perdu un bras ou qui ont perdu une jambe, ben c'est à eux de s'adapter. Et on voit que le cheval va aussi lui-même s'adapter, prendre des positions différentes pour que la personne puisse monter dessus. Donc c'est vraiment un animal qui correspond bien, je trouve, pour cette thérapie.
Tout dépend du contact qu'on a avec l'animal, quoi.
Je pense que c'est une interaction, en fait, entre l'homme et l'animal. Hein,
c'est un feeling.
Ouais, c'est ça, c'est un échange. Et ouais.
Ouais, alors moi, je rejoins un peu ce que dit Aline, parce que j'ai eu l'occasion une fois de voir l'activité équithérapie et d'y participer avec les gens qui étaient là. Et je suis tout à fait d'accord, c'est un moment vraiment de douceur et de sérénité, mais incroyable. Il y a comme une espèce de petite bulle autour de toi et de l'animal. Et c'est vraiment un moment où il y a comme si le temps s'arrêtait, en fait. Et de ce que tu dis, c'est un peu ce que j'ai... Ouais, donc je suis d'accord avec Aline. Franchement, c'était rien de l'avoir, d'avoir pu le voir aussi, c'était juste génial, quoi.
Ouais, c'est cool.
Ouais. Ok, merci Aline pour cette chronique. On va passer à la météo de Malika.
Jingle.
Seigneur météo, quando dit-il fait beau. Seigneur météo, à la glace et frigo. Transistor, esperanza, calor y la top.
Bonjour auditeurs et auditrices, voici la météo. Samedi 23 septembre, 10 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi. Risque d'averses éparses. Dimanche 24 septembre, 14 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. Temps couvert avec quelques moments ensoleillés. Ce week-end, c'est l'automne. Et l'automne, c'est une saison sage et de bons conseils.
10 degrés samedi matin, ça va piquer.
Ça va commencer à piquer, ouais. L'automne arrive.
C'est l'automne. Merci Malika, merci tout le monde d'avoir participé à cette émission. On va se quitter avec une musique choisie par Serge.
Je vais vous parler du groupe T-Rex. C'est un groupe de rock anglais formé à Londres en 1967 par le chanteur, guitariste et compositeur Mark Bolan. Le titre c'est Jet It On.
Get it on. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Star halo, you feel like a car.